phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but you fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You're midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CV. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir, oh là là, quelle saturation.
Voilà.
C'est bon. Alors, bonsoir, c'est l'heure du Canu Info. Nous sommes le mercredi 21 décembre 2016. Il est 19h09. Désolé de notre retard, chères auditrices et auditeurs. Et c'est l'heure du Canu Info, alors.
Alors, on va parler de quoi ce soir?
Alors, ce soir, on va parler des grèves des femmes de ménage à la Part-Dieu. Et on va bientôt avoir en direct une personne de la CNTSO qui nous parlera de cette lutte et de cette grève. Et ensuite, nous parlerons des caméras dans le métro D à Lyon. Ensuite, on parlera de police municipale, de perquisition de militants anti-nucléaires, la précarité massive des travailleuses du sexe dans les rues de Paris. Pour le côté international, nous parlerons du Congo, Kinshasa et du dictateur qui s'accroche au pouvoir. Et nous finirons par la rubrique « Il faut que ça se sache », où on parlera un peu de Calais, globalement de destruction de campements, et de mineurs qui sont en grève de la faim. Voilà pour le Canu Info, et tout de suite, cette interview de la CNTSO.
C'est ça. Alors, eh bien, salut, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui t'es? Est-ce que tu nous entends? Ouais, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Super. Alors ça y est, on est en direct. Et est-ce que tu peux d'abord, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, du coup, moi je suis Marielle, donc militante et organisatrice syndicale à la CRT Solidarité Ouvrière. Du coup, qui est surtout orientée sur la syndicalisation des secteurs les plus précaires, là où il n'y a pas trop d'autres syndicats, et notamment le nettoyage.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui est en train de se passer côté au niveau des salariés de nettoyage à la Part-Dieu en ce moment, et voir revenir sur une première action le 15 octobre donc, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de tout ça?
Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, du côté de la Part-Dieu, il y a donc pas mal de soucis au niveau des conditions de travail, et notamment il y a eu un gros changement depuis la rentrée, puisqu'ils sont passés soi-disant à un centre commercial 4 étoiles. Oui, il peut y avoir des étoiles au centre commercial.
Ah oui.
et du coup, la conséquence de ça, c'est que il y a eu des les lieux qui ont été embellis, agrandis, et notamment les toilettes du centre commercial, avec des exigences toujours plus importantes pour les salariés, qui, elles, étaient toujours payées à coups de lance-pierre et avec des effectifs toujours plus réduits. Et du coup, suite à ça, il y a pas mal de salariés en charge du nettoyage des toilettes, notamment, qui sont venus nous voir et qui avaient envie de se bouger pour essayer de faire changer un peu les choses. Et du coup, une première grosse action a été organisée le 15 octobre dernier. Donc l'idée, c'était une action de solidarité avec les salariés mobilisés, et du coup un chouette soutien de plein de groupes militants lyonnais divers et variés qui a permis d'avoir un beau rassemblement. Donc l'idée, c'était la grève des toilettes en soutien aux salariés aux salariés syndiqués en charge des toilettes, et du coup on fait la grève des toilettes, on fait un shit-in tous en couche-culotte, et on se retient d'aller aux toilettes en soutien aux travailleurs, quoi. Et suite à ça, ce qui a montré justement un peu le pouvoir de l'action, c'est que dans le quart d'heure, les filles ont été reçues par la direction et ont pu mettre sur la table pour la première fois toutes les revendications qu'elles avaient listées au préalable, et sont ressorties de cette première discussion avec une première victoire qui a été le remboursement des frais de transport et un rendez-vous pour pouvoir discuter des autres revendications. Donc elles étaient vraiment hyper touchées par toute la mobilisation des gens, toute la solidarité, c'était vraiment chouette. Ça leur a bien donné de la pêche. Et dans la foulée, cette deuxième négociation qui a été plus rude forcément, puisqu'on n'avait plus le rapport de force que donnait l'action directe, mais en tout cas qui a quand même permis dans les mois suivants d'obtenir la majorité des revendications, notamment la requalification qui a vu les premières augmentations de salaire, mais aussi le renforcement des effectifs et du coup des avancées comme ça qui étaient demandées depuis des années, quoi.
Ce qui est pas mal pour les augmentations de salaire, parce que quand même ces derniers temps c'est un peu ce qui bloque toujours sur les revendications salariales, quoi. Du coup c'est quand même vraiment une belle victoire là-dessus, quoi. Et du coup, je disais que c'était une belle victoire sur les augmentations de salaire, parce que c'est quand même en ce moment quand même ce qui bloque pas mal au niveau des revendications, c'est
complètement ouais. Surtout que c'était vraiment une des revendications les plus dures, quoi, les plus difficiles à obtenir. Et là-dessus, c'est vrai qu'elles n'ont rien lâché, et elles ont mis en avant notamment la diversité des tâches qu'elles faisaient, puisqu'elles ont aussi un rôle un peu d'hôtesse d'accueil, elles font aussi le renseignement et tout ça, et c'est grâce à ça qu'elles ont pu valoriser le fait que toutes ces tâches-là devaient être valorisées aussi par le salaire, quoi.
Et du coup, suite à ce rassemblement, il y a eu un licenciement.
Alors ouais, effectivement, la représentante syndicale qui a été la plus active du coup sur cette première mobilisation, par la suite s'est vue accusée de fautes graves, puisque apparemment elle faisait mal son travail, et du coup elle a été mise à pied et licenciée dans la foulée. Donc sur ce coup, le syndicat a tout de suite mis l'avocate du syndicat pour provoquer un référé, qui est du coup une procédure d'urgence en cas d'abus grave d'atteinte au droit, et là notamment au droit syndical. Et du coup, ce référé va permettre de ne pas justement être soumis au délai énorme des prud'hommes, mais de pouvoir avoir justement des résultats rapides. Et donc ce référé est prévu pour le 4 janvier, où là la demande de sa réintégration, en fait.
Qu'elle a, d'après vous, beaucoup de chances d'obtenir, ou c'est quand même, ça dit comme ça, ça paraît assez gros, un licenciement d'une personne syndiquée qui apparaissait comme une leader et se faire virer direct. Ça paraît un peu gros et peu malin de la part de la direction, quoi.
Effectivement, il y a plusieurs éléments, notamment le fait aussi qu'elle avait été nommée représentante de section syndicale, qui est du coup un mandat qui est protégé encore un petit peu et encore pour l'instant, on va dire, par le code du travail, où normalement donc l'employeur doit demander l'autorisation de l'inspection du travail pour pouvoir la licencier, ce qui n'a pas été le cas. Et aussi, voilà, sur la qualité de son travail, l'employeur qui essaye donc de fournir des preuves qu'elle a effectué mal son travail, mais qui a aussi, voilà, du mal à rassembler ça, quoi. Donc on est plutôt optimiste, effectivement. Après, voilà, si les jurés ont le moindre doute, ils renverront ça devant le conseil des prud'hommes. Après, on est sûr de gagner au prud'homme, mais l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une victoire aussi à court terme.
Oui, c'est ça, parce que les prud'hommes, après, au niveau des prud'hommes, ça risque de mettre plus longtemps pour
aller juger. Mmh.
Et du coup, au niveau de l'ambiance, ça a plutôt fédéré les gens autour de ce truc-là, ou plutôt ça fait un peu flipper les gens, et du coup, les gens ont un peu plus peur de se mobiliser, ou...
Bah, il y a eu deux phases, en fait. Il y a eu la phase juste après l'action où effectivement le licenciement a fait un peu peur, puisque il y avait cette menace de « Ah, si on appartient au syndicat, on a un risque de se faire licencier ». Mais à la fois, en fait, toutes les victoires qui ont suivi l'action et puis l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a eu suite à l'action, par exemple des agents de sécurité qui sont allés voir les filles en disant « Ah, c'est super ce que vous avez fait, c'était vraiment une chouette action, la prochaine fois, dites-le nous, on viendra ». Donc et tout ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui les a motivés à continuer, et puis surtout à être plus nombreuses, à aller voir les autres. Beaucoup étaient aussi sympathisantes et suivaient ce qui se passait sans être forcément adhérentes, et qui là, dans les semaines qui ont suivi, ont pris leur carte au syndicat. Donc au contraire, ça a eu plutôt, assez paradoxalement finalement, ça a eu plutôt cet effet de fédération, où on a envie de, bah tiens, si c'est, il y a un moment où il faut se battre, c'est peut-être maintenant, quoi.
Bon, ce qui est plutôt positif, ce qui montre que c'est pas parce que dans les bureaux des sociétés au niveau assez élevé, ils réfléchissent à des stratégies, des fois elles ne marchent pas, voire elles créent l'effet inverse de désiré, quoi. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a une nouvelle journée d'action qui est prévue demain? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée, et qu'est-ce que vous attendez de cette journée?
Ouais, alors bah du coup là il y a eu plusieurs réunions courant décembre, donc des salariés qui ont fait un petit peu le point sur, il y a eu pas mal de, notamment dû à la forte fréquentation du centre commercial, de choses qui se sont dégradées en termes de conditions de travail, et toujours aucun espace de discussion en fait avec la direction. Et donc là, elles ont eu envie d'envoyer donc une nouvelle lettre de demande à la direction. Et suite à cette lettre, donc aucune réponse, aucune proposition de rendez-vous. Et donc là, ce qu'elles se sont dit, c'est les fêtes de Noël, c'est peut-être aussi l'occasion de taper un peu fort et puis de déranger. Il y a aussi la direction du centre commercial qui fait forcément pression sur la société pour éviter au maximum ce genre de rassemblement.
C'est ça, parce que
du coup, là, l'idée, c'était de faire une action un peu avec une ampleur un petit peu différente. Donc, elles ont demandé le soutien du syndicat de SIT, qui est un syndicat CGT et qui est notamment représentatif des vendeurs des boutiques, donc notamment les grandes enseignes, Carrefour, Galerie Lafayette, CEA, etc.
Parce que c'est ça, peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que du coup les salariés dont tu parles sont pas du tout employés par le centre commercial, mais bien par une société qui s'appelle SAMSIC, il me semble, et qui est indépendante du centre commercial. Enfin, dans tout plein de centres commerciaux, j'imagine, et j'imagine dans d'autres sociétés. Du coup, elles sont un peu sous deux chapeaux, j'imagine, et la direction du centre commercial et leur direction qu'elles croisent jamais, j'imagine, de la société SAMSIC.
Oui, après, cette alliance a d'autant plus de sens qu'il y a une double responsabilité, hein, dans le cas des conditions de travail des salariés du nettoyage. Il y a une double responsabilité et du donneur d'ordre, qui est ici le centre commercial, et de la société opérationnelle, qui est la société de nettoyage, quoi.
Et du coup, concrètement, comment se passe la journée de demain? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous appelez plein de gens à venir au centre commercial non pas pour faire leurs achats de Noël, mais pour venir soutenir les salariés du nettoyage.
C'est ça. Bah, du coup, demain, l'idée de l'action, c'est de la main-d'œuvre gratuite pour Noël, en cadeau à Samsic. Donc, c'est de venir tous avec... avec un accessoire de nettoyage, une baillette, un chiffon, pour venir soutenir les femmes de ménage et leur permettre d'obtenir un nouvel espace de négociation. Donc l'objectif de la journée de demain, c'est bien sûr de pouvoir renforcer la direction de Samsic et la direction du centre commercial à venir à la table des négociations pour discuter des revendications qui ont été envoyées préalablement. Et parallèlement, il y a un enjeu fort d'alliance aussi entre les salariés du centre, que ce soit ceux du nettoyage, ceux de la sécurité, puisqu'il y aura aussi une participation de pas mal d'agents de la sécurité qui ont dit qu'ils se joindraient au mouvement, et aussi des représentants des boutiques.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une heure précise où vous invitez les gens à venir?
Alors du coup, le rendez-vous, donc ce sera à 17h demain, au centre commercial.
D'accord.
Mais où au centre commercial?
Ce sera... Ah oui, c'est à quel endroit au centre commercial?
Ça va... Le sitting aura lieu en haut, en fait, de... En haut, dans le hall principal, quoi, en haut de l'escalator du métro.
D'accord. Du coup, au niveau zéro.
C'est ça.
D'accord, ok. Très bien. Eh ben, super. Moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que toi, tu as des trucs à préciser ou...
Ben, c'est juste que, venez nombreux, on vous attend, elles ont besoin de vous. Là, l'enjeu, il y a vraiment un gros enjeu à montrer qu'on monte en puissance dans le rapport de force. Et là, on est dans une bonne position, on sait qu'ils ont peur. On a aussi essayé de mobiliser pas mal de médias pour demain. On sait que ça va faire mal. Et du coup, on a plus que jamais besoin qu'il y ait du monde. C'est pas simple de mobiliser l'avant-veille de Noël, comme vous pouvez imaginer. Mais du coup, pour les gens qui sont sur Lyon, c'est super chouette si vous pouvez faire le déplacement, parce que ça va être une chouette action, ça va être dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, et vraiment les salariés comptent sur le soutien de tous les militants qui étaient là en octobre, et sur des nouveaux également. Du coup, on compte sur vous pour que vous veniez le plus nombreux possible demain, quoi. Voilà.
Alors, on rappelle le rendez-vous, c'est demain au centre commercial de la Part-Dieu à 17h, au niveau 0, et très exactement, en bas des escalators, c'est ça?
En haut des escalators du métro, ouais.
Voilà.
Entre 17h et 17h15.
Super. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de...
Eh bien, merci à vous, et puis j'espère à demain, à tous.
Eh bien, bon courage à vous. Salut.
Merci, au revoir.
Parler maintenant de police municipale ou de police mumu. Bon, bref. Donc, puisqu'on entend beaucoup parler de manifs de flics et que ça nous fatigue d'entendre dans les bars ou chez le coiffeur ou à d'autres endroits que la France va mal puisque sa police va mal et que perso, je comprends absolument pas la logique de cet argumentaire. Donc, parlons-en de leurs moyens qui n'ont fait qu'augmenter depuis les années 80. Parce que est-ce que les flics se plaignent de trop travailler à l'heure de l'état d'urgence? Eh bien oui, alors, mais qu'ils s'arrêtent, n'hésitez pas à arrêter et qu'ils se mettent au chômage. Puis plutôt que de se plaindre de trop travailler, tant mieux, ne travaillez pas. Et même s'ils se plaignent de manquer de moyens, c'est plutôt exagéré. Puisque rappelons que les flics municipaux à Lyon se sont vus accorder le droit de port d'armes à feu à l'automne, ce qui est quand même pas rien, c'est pas une petite matraque ou des gilets pare-balles, puisqu'ils ont des gilets pare-balles, ils ont tout un arsenal sur leur dos, du moins ils ont des protections partout, plus maintenant un revolver. Voilà, donc pour rappel, c'est une décision de François Hollande prise quelques jours après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Et donc 4000 armes à feu et le double de gilets pare-balles, c'est du coup ce qui a été mis à disposition des police municipale par le gouvernement à l'échelle nationale. Et à Lyon, c'est avec les attentats de Paris en novembre dernier, donc en novembre 2015, que Gérard Collomb a franchi le cap. Oui, 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 Gérard Collomb, maire PS, a finalement décidé d'armer la police municipale. Donc 200 agents volontaires pour être armés. Et alors, il y en a combien de flics municipaux? 330. Donc 200 ont accepté sur 330. Il en reste 130 qui n'ont pas accepté. Ça fait un peu peur. Bref, et ces policiers municipaux armés ont vu leurs horaires modifiés pour qu'ils aient aussi à intervenir en soirée. Ah. Parce que les armes, apparemment, sont plus utilisées en soirée que le matin. Bon, très
quand bien. On voit moins bien.
Et donc, sur le site du coup d'info alternative IATA de Toulouse, un article a été publié sur la police municipale. Et du coup, vous pouvez également le retrouver sur rebellion.info. Et cet article d'autodéfense populaire, car pourquoi cet article d'autodéfense populaire? Parce que la police municipale, je cite, ses prérogatives, son fonctionnement et son histoire restent peu connus. Donc en 65, il y a un arrêté qui stipule qu'une commune de plus de 2000 habitants peut se doter de sa propre police municipale. Ainsi, malgré le mouvement général d'étatisation des polices, les polices municipales, loin de disparaître, se développent pour connaître un essor fulgurant à partir des années 80. Donc, à titre d'exemple, la ville de Toulouse comptait 12 000 policiers municipaux. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. 12 policiers municipaux en 74 contre 170 en 2014 et 340 d'ici la fin du mandat du maire de Toulouse, dont je ne sais pas le nom. Désolé. Alors, face donc au sentiment d'insécurité grandissant, savamment orchestré par les médias de masse, malgré la baisse continue de l'insécurité réelle, les élus se rendent populaires à moindre frais par la création d'une police réputée de proximité et au service des administrés. Pour LE, c'est surtout les agents de leur service que leurs confrères que leur confère un réel pouvoir exécutif sur leur commune. Donc la police municipale est aujourd'hui en pleine expansion, elle constitue la troisième force de police en France et son développement n'est pas prêt de s'arrêter, y compris dans les villes qui disposent déjà d'une police d'État, pardon, dont les effectifs augmentent aussi régulièrement. Sur les quelques 35 000 communes que compte la France, près de 4 000 possèdent une MUMU et les 50 plus grandes villes en ont toutes une, à l'exception notable de Paris, où le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions habituellement confié au maire. Bref, je vous encourage vivement à lire cet article dont je viens de citer un paragraphe. Voilà, n'hésitez pas à aller le retrouver sur iata.info ou sur rebellion.info.
Eh bien, on continue un peu sur la lancée sécuritaire et on s'oriente vers toujours plus de caméras à Lyon et spécifiquement dans le métro, qui va voir son nombre de caméras de vidéosurveillance ma phrase n'est pas très claire, mais 576 nouvelles caméras de vidéosurveillance seront installées dans le métro lyonnais.
Non, mais il y en a déjà partout, dans tous les angles. Où est-ce qu'il faut les mettre?
Non, mais surtout, attention, il n'y en a pas 576 qui vont être dans le métro de Lyonnais, comme on pourrait bien le comprendre. Ça va être spécifiquement sur la ligne D, et ça va être pas sur les
ils vont être embarqués, tu veux dire.
Exactement, ça va être à l'intérieur des rames. Donc il y a 576 caméras qui seront dans les rames du métro D. Alors, pour avoir une idée, hein, pourquoi 576? Eh bien, simplement parce qu'il y a 36 rames de métro D et il y en aura donc 16 par rame, ce qui est quand même assez énorme. Hein, on se demande où on va pouvoir se mettre en heure de pointe. Et alors pourquoi un peu ces caméras? Bon, bien sûr, tout ça, hormis les prétextes de sécuritaires, eh bien c'est parce que pour l'instant il y en a déjà qui sont installées, mais elles ne diffusent pas en direct les images, elles sont en léger décalé. Alors ça les embête, hein, ce léger décalé. Et du coup là, les caméras seront de dernier cri et diffuseront les images en direct tout de suite. Les agents de contrôle pourront les voir directement ce qui se passe dans les rames. Voilà. Et tout ça, alors on sait pas bien plus.
Que ça peut foutre que ça soit en léger décalé puisqu'ils voient pas le direct. Tu vois ce que je veux dire?
Et ben là, ils pourront savoir comme ça exactement ce qui se passe. Alors les articles que j'ai lu disent pas exactement de combien de secondes ou de minutes étaient sur les jets différés, mais voilà.
Mais c'est payé par qui? C'est pas payé quand tu payes un ticket de TCL et ça paye les caméras, les nouvelles caméras pour les agents là.
Exactement. C'est comme c'est une commande du Citral et que ça va équiper le réseau du Citral, ce sera imputé forcément sur le prix de vos abonnements, de vos tickets de bus, de tout ça. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, hein, que si le prix du ticket et de vos abonnements augmente en janvier, ce qui va être le cas comme chaque année, voilà, une partie de ce prix servira à ce qu'il y ait un peu plus de regard dans ces rames de métro.
Et une perquisition d'un militant anti-nucléaire. Donc, c'était le mardi 13 décembre. Le domicile de Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire pour Greenpeace France, son domicile a été perquisitionné par les services donc de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Donc son domicile est situé dans la Manche. C'est pas rien quand même, une petite perquisition de la DGSI. Ils ont agi, je cite, sur ordre du procureur de la République de Paris. Et à l'origine de cette perquisition, c'est une plainte qui est déposée par Christophe Quintin. Et Christophe Quintin, il est haut fonctionnaire de la Défense à la Sécurité Nationale. Attends, c'est pas rien. Et Christian Riac, qui est un général de brigade, qui est responsable national de la sécurité nucléaire.
Autant dire que quand eux, ils portent plainte, c'est pas la même chose que quand vous allez porter plainte dans un commissariat. Le traitement n'est pas tout à fait le même.
Et donc, ils ont saisi chez Yannick Rousselet, tous les supports numériques professionnels et familiaux. Ils ont tout raflé. Donc, lui, il dit, bah, voilà, tout est parti. Téléphone, ordinateur, disque dur, externe, clé USB, carte SD, tout ce qui ressemblait à un support numérique. Donc, il s'est vu également signifier une convocation et une garde à vue pour interrogatoire, sans plus de précision.
Et tu veux dire qu'ils ont perquisitionné son domicile, mais il n'a pas été conduit en garde à vue directement?
Non. Donc, apparemment, le motif suivant serait compromission du secret de la défense nationale. Donc, voilà à quoi il sert l'état d'urgence. Et du coup, après, on parle de police municipale comme police de proximité. On pourrait dire l'état d'urgence de proximité. Et la précarité massive des travailleuses du sexe dans les rues de Paris, mais pas seulement de Paris. Là, c'est un article qui parle de Paris, mais disons que c'est par rapport à la loi sur la pénalisation des clients. Eh ben, toutes les assos de travailleuses du sexe et de personnes soutenant les travailleuses du sexe l'avaient dit. Cette loi sur la pénalisation des clients allait augmenter leur précarité, et ben là, c'est avéré. Donc, les travailleuses du sexe de rue en activité à Paris sont régulièrement victimes d'agresseurs en série, mais elles portent rarement plainte par crainte d'ennui avec la police. Donc ça, ça a été dénoncé par Médecins du Monde et par le STRAS, le syndicat des travailleuses du sexe, là, dans un rapport rendu public ce lundi 19 décembre. Donc sur 72 affaires concernant 142 prostituées suivies donc par le Lotus Bleu, c'est un bus de Médecins du Monde qui propose donc une assistance juridique, administrative et sanitaire aux travailleuses du sexe parisiennes. Donc 22 sont le fait d'agresseurs en série. Donc en série, ça ne veut pas dire, vous imaginez pas, le psychopathe, c'est juste une personne qui agresse plusieurs fois la même travailleuse du sexe. C'est ça que ça veut dire. Donc soit 30% du total, note Médecins du Monde dans son rapport. Et ce rapport a été écrit donc en partenariat avec l'association Les Amis du Bus des Femmes, donc ce bus-là, le Lotus Bleu, et avec le STRAS, le syndicat du travail sexuel. Donc dans plus de la moitié des cas, les femmes agressées ont été violées, précise Médecins du Monde. Et sur 33 affaires suivies par les Amis du Bus des Femmes, une structure d'aide aux prostituées, donc 6 sont le fait d'agresseurs qui ont répété sur la même personne leur agression, soit 18% pointe l'étude issue d'un programme intitulé « Tous en marche contre les violences faites aux travailleuses du sexe ». Et donc, il y a Sarah Marie Mafosoli, qui est cadre donc à Médecins du Monde, qui explique c'est que ces travailleuses du sexe sont ciblées par ces agresseurs car elles sont vulnérables et notamment elles sont vulnérables parce qu'elles ne parlent pas forcément français ou qu'elles sont sans papiers. Les personnes qui sont les plus vulnérables, donc parce qu'elles sont sans papiers et qu'elles parlent mal français, sont les personnes qui vivent le plus d'agressions par les mêmes personnes. Donc, des agressions violentes. Sachant puisque vous voyez, une personne qui n'est pas en règle n'ira pas forcément voir la police, du coup, il y a les agresseurs, ils se sentent en toute impunité, ils en profitent pour attaquer les mêmes personnes et être très insistants et voilà. Je cite, pratiquement personne ne porte plainte par peur de se rendre visible de la police, d'être identifié par elle. Donc c'est Thierry Schaffassauer qu'on entend souvent parler, qui est porte-parole du STRAS, qui dit ça. Récemment, quand des prostituées chinoises ont voulu dénoncer leur agresseur, plutôt que d'être aidées par la police, celle-ci a fermé des appartements et a arrêté de propriétaires pour proxénétisme, raconte-t-il. Donc oui, ça leur donne pas envie d'aller porter plainte. Et donc voilà, le constat, c'est le vote de la loi prostitution en avril semble avoir plutôt favorisé les violences à l'égard des prostituées qu'accru leur protection, souligne ce rapport. Et donc cette loi prostitution, cette pénalisation des clients qui sont passibles d'une amende de 1 500 euros, pouvant monter à 3 750 en cas de récidive. Et c'est ça a causé leur raréfaction et une paupérisation des travailleurs du sexe. Et par ailleurs, les clients qui restent sont eux plus enclins à négocier les prestations à la baisse ou le port du préservatif, selon ces associations. On le savait, mais là, du moins, ça a été dit avant, attention, ça va créer ça, et maintenant c'est fait, malheureusement.
Pour une mesure qui a quand même été mise en place par Najat Vallaud-Belkacem, qui était censée être une mesure, qui était la vitrine, c'était une mesure pour le droit des femmes, du coup, une mesure de protection.
Et alors, on a une nouvelle internationale. On n'en a qu'une là, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce Canu Info. Donc, c'est au Congo, Kinshasa, le dictateur Joseph Kabila, qui s'accroche au pouvoir. Alors qu'il tente par tous les moyens de rester au pouvoir, donc le mandat de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, RDC, a pris fin ce lundi. Donc, en septembre, il y avait des vagues de protestations qui avaient été graves réprimées dans le sang par le pouvoir en place. Et donc, le lundi 19 décembre a marqué la fin officielle donc, de ce mandat de Joseph Kabila, président depuis 2001, quand même, à la suite de l'assassinat de son père, qui était chef de l'État aussi. Et en septembre, donc, l'annonce du rapport des élections présidentielles en 2018, l'annonce du report des élections présidentielles en 2018, alors qu'elles étaient initialement prévues pour le 27 novembre, avait très 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 énervé beaucoup de Congolais. Et ça est pour ça que plein de gens étaient sortis dans la rue et beaucoup, il y avait eu malheureusement aussi beaucoup de morts. Et aujourd'hui, certains d'entre eux rappellent à quel point Kabila est délégitimé. La Constitution lui a interdit de se représenter. Et en 2011 déjà, sa réélection était le fait de fraude massive. Et à l'époque, les manifestants qui exigeaient son départ avaient été réprimés très violemment par la police et l'armée et faisaient près d'une centaine de morts. Donc ses soutiens initiaux parmi les pays impérialistes occidentaux ont tendance à le lâcher là, craignant depuis septembre là, parce qu'il y a une grosse contestation, craignant que son règne sans fin n'entraîne que plus d'instabilité, mettant en péril leurs investissements. Hein. Bien, c'est toujours des histoires de gros sous, hein, malheureusement, dans ce pays. Et donc l'opposition à la majorité présidentielle tente quant à elle de tirer son épingle du jeu, jouant sur deux tableaux. Donc l'opposition joue sur d'un côté le rassemblement de l'opposition qui essaye de s'appuyer sur la colère populaire pour gagner en légitimité, tandis que de l'autre, certains de ses acteurs ont continué à chercher un accord avec le pouvoir en place. Cependant, les négociations sont en suspens jusqu'à aujourd'hui, et la présence policière a été renforcée dans toutes les grandes villes du pays. Et donc ça fait une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur le Congo pour pas que, je pense, se reproduisent aussi toutes les énormes violences qui se sont faites en septembre. Donc c'est les victimes de cette politique désastreuse, donc à laquelle la France est loin d'être étrangère, hein, parce que quand on parle des pays impérialistes occidentaux, la France est en fait très évidemment partie. Les victimes de cette population, de cette politique désastreuse, restent bien évidemment la population du Congo, qui pour beaucoup vit dans la précarité. Et donc depuis des années, tous ceux qui osent s'opposer au pouvoir en place subissent de plein fouet une répression extrêmement violente. Mais cela n'a pas pour autant freiné donc leur velléité de révolte, exigeant le départ de Kabila sans pour autant être dupe quant à la nature des partis d'opposition. Nombreux sont ceux qui iront manifester leur colère dans la rue. Et malgré la rage légitime d'une grande majorité des Congolais, l'ONU, grand pacificateur, a eu l'audace de lancer un appel au calme et à la retenue. C'est hallucinant quand même. L'ONU, quoi. On n'en doute pas, mais rappelons-nous que l'ONU, n'est pas forcément un allié, puisqu'il a, un appel au calme et à la retenue en expliquant que les acteurs politiques congolais avaient la responsabilité historique de parvenir à un consensus négocié sur la tenue des élections. Et donc, on peut leur espérer à tous ces militants qui sont dans la rue, victoire pour le chasser définitivement.
côté.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. J'ai que les lois mises en place.
Et alors, deux petites infos pour ce Faut que ça sache. Donc, c'est 19 mineurs qui ont entamé une grève de la faim pour protester contre le refus du Royaume-Uni de les accueillir. Âgés, ils sont très courageux, quoi. Âgés de 13 à 17 ans, c'est. Donc, ces jeunes hommes afghans sont hébergés dans le centre d'accueil et d'orientation pour mineurs de Réalville, qui se situe en Tarn et Garonne. Ils sont arrivés au centre de Réalville le 2 novembre à la suite donc du démantèlement du camp de Calais et du bidonville plutôt même. Et des adultes sont également recueillis dans un centre d'accueil et d'orientation, un CAO, à Bruniquel, un village voisin. Et pour rappel, au total, sur les 1900 mineurs pris en charge après le démantèlement, seuls 500 ont pu gagner la Grande-Bretagne mi-décembre. Et des inquiétudes sont apparues ces derniers jours après des articles dans la presse britannique, notamment s'alarmant sur une possible fermeture des portes du Royaume-Uni. Donc, bon courage à vous dans votre grève de la faim. On vous soutient de tout cœur. Destruction de campements, donc si Calais est plus souvent sous les projecteurs des médias et si la politique de violence à l'encontre des exilés y est poussée à des moments peut-être plus loin, mais c'est même pas sûr, une situation analogue concerne tous les campements à la frontière britannique, ainsi qu'à Ventimiglia entre l'Italie et la France, ainsi que de nombreux autres endroits de passage de frontières. Bref, tout ça pour dire que à Dieppe, la politique est la même que celle appliquée à Calais suite à la fermeture du centre de Sangatte en 2002. Donc, évacuer les squats et campements, détruire les tentes et les effets personnels, harceler les personnes qui se réinstallent plus loin pour être chassées à nouveau. Dieppe est aussi, avec Cherbourg et à la suite de Calais, l'un des premiers ports où se déploient des dispositifs de contrôle physique, donc grillage et barbelé fermant le port, et technologiques, caméras, détecteurs de gaz carbonique pour les camions, avec intervention de sociétés privées de sécurité, en tout début des années 2000. Ainsi, en cette fin décembre, des tentes et des effets personnels ont été pris et jetés à la benne la semaine dernière. Une procédure d'expulsion est entamée contre un autre campement et doit être audiencé cette semaine, donc ça se passe à Dieppe, mais un peu partout en Europe.
Il faut que ça se sache.
Voilà, ça c'était un bref, faut que ça se sache, mais important tout au moins.
Eh bien, il est 19h50.
Alors, pour finir ce Canu Info, on pourrait faire une brève extrêmement locale, puisqu'il s'agit de Radio Canu, il s'agit de ces très chères personnes très 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 attentionnées qui ont défoncé la vitrine de Radio Canu à 4h du matin, vendredi dernier. C'était, je sais quelle date, vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas, nous l'avons bien remplacée, notre vitrine, elle est belle, elle est fringante et elle est résistante. Et donc, on a pu s'interroger, on se dit, c'est marrant quand même, volontairement, que un groupe de personnes viennent et défoncent littéralement la vitrine. Il y avait 11 impacts dans la porte, dans la vitre sécurite, les autres étaient complètement détruites. Et voilà, donc on imagine que c'est quand même des personnes, on va dire, plutôt qui n'aiment pas Radio Canu. Alors il y a différentes pistes pour les gens qui n'aiment pas Radio Canu.
Vous n'êtes pas nombreux quand même.
Oui, mais c'est plutôt des, on pourrait dire des gens un peu peut-être d'extrême droite. Ou,
c'est possible, oui.
Ou peut-être des flics qui n'ont pas d'humour.
Ou des voisins énervés, mais ça je crois pas.
Ouais, voilà, moi je pense pas que trop que ça soit des voisins, donc bon bah après, bon bah il reste deux pistes. Alors, voilà, bon bah... Bon bah voilà, pour
bah, attends, au moins on a moins besoin de les laver, parce que maintenant elles sont toutes propres, alors c'est un désavantage quoi.
Voilà. Bah voilà, en fait, c'est ça, c'est que c'est des gens qui étaient un peu maniaques du nettoyage, peut-être. Peut-être c'est les féministes de Radio Canu. Oh là là, le gros scoop qu'on vient de lancer.
Voilà, et on peut finir ces infos en rappelant le rendez-vous de demain, qui est demain, alors c'est enfin un des rendez-vous, mais en tout cas on va parler que de celui-là. Demain, jeudi à 17h au centre commercial La Part-Dieu, au niveau 0 en haut des escalators qui mènent au métro. Voilà, donc c'est bien dans le centre commercial de La Part-Dieu. Voilà, un rassemblement pour soutenir les employés de ménage du centre commercial, voilà, qui sont en lutte depuis quelques temps. Il y avait une première journée d'action qui le 15 octobre qui avait permis d'obtenir pas mal de revendications, mais il y a eu suite à ça un licenciement pour on va dire les choses clairement, discrimination syndicale suite à ce rassemblement. Donc la direction de la société, j'ai plus son nom mais on s'en fout, a décidé de licencier une représentante syndicale qui menait la lutte avec ses collègues. Donc voilà, donc ce rassemblement c'est pour la soutenir, pour réclamer sa réintégration, pour réclamer tout un tas d'autres choses pour améliorer leurs conditions de salariales, pardon. Donc c'est jeudi 17h en haut des escalators du centre commercial de La Part-Dieu. Voilà, on leur souhaite bon courage et de bonne continuation fait. Dans leur lutte.
Et donc merci très chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, mais c'est sûr, en tout cas en janvier 2017. Et d'ici là, ben, bonne fin de semaine.
Ouais, merci de nous avoir écoutés. Pardon, on va écouter Malika, c'est Intikabait, c'est une rappeuse libanaise. Et après, on va vous laisser avec un CD qui tourne un peu en boucle ces derniers temps, parce qu'on a un problème de bande continue. Les bandes continues, c'est la musique que vous écoutez au fil du temps quand il n'y a pas d'émission. Et voilà. Et donc, a priori, il n'y a pas l'émission Idées Noires juste derrière nous, parce qu'on ne les voit pas et qui devrait commencer dans 5 minutes. Voilà. Donc,
alors, on vous offre une petite chanson et ça.
Qui change du CD.
Voilà, profitez-en bien.
Voilà. Bien. Et les bandes continues, on vous promet, seront réparées le plus rapidement possible.
انتخابات لبنان 2009 7 حزيران ومصوت
ليك يابا انا مين عم بتصوت لا شو بدك فيه لا صوتنا وانت يا ابن الطايفة بعدين 100 دولار ما بضر حلوين خوف 100 دولار وصوت شو فرقانة معك
ان كنا ع اختلاف او ع اتفاق ما تكون الانسان اللي اضطرك بلده ينهان بعدين فاق ما تحمل سلاح مول وقت انتخابات يا خي اللي فات مات زهقنا من فوضى الحال في مؤسسات عم تخلق كل هالحساسيات شد بكات عربسات لعب بالكلمات غسيل دماغ بالبروغرامات والدعايات عم دعايات حي طبيق مش بيبيع امال بس ادعي كل الشعب انه يستفهم ويقوم البرامج السياسيه قبل ما الصوت يامن عم عمم وقفوا اللي عم بيسمم ويصمم عالتحريض السياسي ليضمر صوتك فيك تتأمن تتمدن تثبت انه بلدك ما بيتقدم لحدا ابدا ما حنتخلى عن ارضنا فاهم لو قد ما حربتو لبنان اخضر دايم سيد الاقتراح راح يكون بعلبة زجاجية فيها شفافية لتضل الاصوات هي لازمنا الديمقراطية لتبقى القرار اللبنانية والحرب الطائفية سبع حزيران يوم التعبير بحرية هيئة اشراف مراقبة قصوى بالعملية صوتك قلك او قلك بس مش للبيع شغل عقلك ما تعمل شو ما قالك لك في وسمع صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت
صوت صوتك مثال للحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد أي طائفية انت صوت ضد الألعاب السياسية انت
Keep your mind, eyes, and ears open, 'cause here goes again. This is a mere notice to peers. Voting it all depends on you. Don't make the same mistakes you made before and put a country at stake to vote for the candidate that pays you more. I'm in the streets screaming, go vote until my voice gets sore. Holding up a banner for the people, reading the choice is yours. Billboards, posters, and TV ads are poison board. We need to form a country that we can both enjoy. So let us renew and do whatever is due to set up a better improved state. This is my letter to you. Whether we from the same city or of separate movements, let's get together on the 7th of June. Yes, and let's forget the past and why. Yes, besides a conscience is supervised by SKEC. Elect whoever you think is best and whoever you think fits the position. It's as simple as reading their program. If no man fits the spot, don't hesitate to drop a blank paper in that box. Let's rock.
صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت